Pues bien, tiene la palabra entonces la doctora Leila Macián para hablarnos del sistema portuario marroquí y el Atlántico en la Edad Moderna durante los siglos XVII y XVIII.
Agradezco también a los organizadores de haber invitado a este encuentro. Es la primera vez que vengo a las Islas Canarias. Lo siento, voy a hacer mi ponencia en francés porque mi español no es muy bueno. Pero la presentación está en PowerPoint, está en español. También intentaré, cuando las palabras están un poquito delicadas, voy a intentar decirlas en español. Entonces, dans cette présentation, je vais essayer de parler lentement. Donc, au cours du XVIIe siècle et dans la première moitié du XVIIIe siècle, il est possible d'invoquer tout un foisonnement de villes portuaires marocaines, marocaines dont le destin est intimement lié à la mer et à l'espace atlantique, et aussi à la construction du système portuaire marocain. Les vagues. Les vagues, voilà, ça vient. Les vagues d'implantation espagnole a généré des réactions locales et une contre-course active de la part des Marocains. La crise du commerce saharien et l'instabilité politique du Maroc dans le début du XVIIe siècle, ont fait de l'ouverture sur l'Atlantique et sur l'économie atlantique une nouvelle réalité pour les régions côtières. L'abandon de plusieurs présides par les Espagnols, je pense notamment à l'Arrache et à la Mamora en 1681 et en 1689, et aussi par les Portugais, Mogador en 1667, Mazagan en 1667, ont libéré les potentialités maritimes marocaines et du littoral atlantique. Le Maroc peut maintenant disposer de toute une série de ports qui ont des caractéristiques qui leur sont propres. Et les activités qui en découlent s'insèrent dans des réseaux bien définis. C'est donc l'ensemble des réseaux de relations reliant ces ports à leur interland, à leur arrière-pays, l'interland, et surtout à leur foreland, l'avant-pays, qui définissent leur caractère, voire leur fonction, et qui influent de manière décisive dans la vie institutionnelle, économique, culturelle et politique de ces ports et de ces espaces ouverts. Ces mêmes composantes cherchent à s'équilibrer, l'une régissant ou réagissant sur l'autre, car il est possible de classer ces ports atlantiques selon leur fonction dominante, ce qui nous permet d'opérer d'utiles comparaisons. Même si certaines places portuaires remplissent plusieurs fonctions à la fois, ou des fonctions qu'on pourrait dire multiples, il y en a même qui sont intimement liées à d'autres parties du monde, par exemple Salé au XVIIe siècle, ou Mogador au XVIIIe siècle. À travers, bien sûr, la course essentiellement, mais aussi à travers le commerce. Et donc, le rayonnement économique de ces villes portuaires est conditionné par le faisceau de relations de mer qui varie, je dirais, qui varie non seulement en fonction de l'interland, comme je viens de dire, et des activités du port, mais aussi en fonction d'une conjoncture extérieure changeante. D'autres places, je dirais, c'est aussi le cas, comme j'ai dit, c'est aussi le cas de Safi au milieu du XVIIIe siècle et de Mogador dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. D'autres places restent surtout des satellites aux ports principaux. C'est le cas de la Marmora, que je viens de citer, libérée en 1681, qui était dans les mains espagnoles depuis 1614, Larache, libérée en 1689, comme je viens de dire, Asila en 1691, ou encore Fedala et Sainte-Croix ou Santa Cruz, réduits dès la fin du XVIIe siècle à des ports de seconde zone. Dans le présent papier, nous allons donc essayer d'appréhender l'évolution du système portuaire marocain à travers l'activité maritime intensifiée de ces ports et de certains ports du littoral atlantique marocain. On mettra l'accent essentiellement sur le port de Salé, et s'il nous reste du temps, on va s'atteler aussi sur le port de Mogador dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Alors, pour ce qui est des sources, Las Fuentes, pour ce qui est des sources, elles sont éparses. Il y a des sources qu'on a pu localiser au Maroc, même si le rapport reste très limité, surtout pour le XVIIe siècle. Il en sera autrement pour la seconde moitié du XVIIIe siècle. On dispose déjà d'un appareil archivistique important, surtout à Rabat et aussi à Salé. Mais le plus important fonds archivistique se trouve essentiellement en Europe, notamment en Espagne, dans les Archivos Historico Nacional, Archivos de Simancas, il y a aussi Archivos de la Corona de Aragon, et aussi dans les archives françaises, notamment les Archives Nationales de Paris, le fonds ancien, fonds marine, la série B7, et aussi les Archives Diplomatiques de Nantes, sans oublier bien évidemment les archives de la Chambre de Commerce de Marseille. J'ai exploité également les archives d'Estato de Genova, et aussi les archives hollandaises, les archives d'État à Den Haag, en Hollande. Ça, en gros, les archives que j'ai pu consulter, si vous voulez plus de renseignements, vous pouvez poser des questions à la fin de cette communication. Alors, pour revenir à notre thème, donc pour ce qui est du Maroc maritime au XVIIe siècle, nous disposons, comme j'ai dit, de 4 ports opérationnels, où on distingue, dont 3 sont situés sur le littoral atlantique. Il y a Salé, donc il y a une carte. Si.
En este caso me va a coger un poquito de tiempo, pero lo haré yo. Sí, prefiero. Ah. O sea, aunque no está perfecto, me enseñó, pero.
Estábamos planteando la posibilidad, dado que la mayoría de los asistentes pues no entiende muy bien el francés, de hacer una traducción consecutiva o simultánea en la sala. Bien, pues, ¿le haces la traducción consecutiva o simultánea?
No, hablas una frase y yo la resumo.
Bueno. Habla un poquito y tú haces un resumen de vale. Ese párrafo que ella...
Perdonen, señores.
De acuerdo. ¿Les parece mejor así, no?
Alors, je suis vraiment désolé, lo siento. Alors... Donc, je disais, parmi les ports les plus importants, donc il y a 3 ports atlantiques qui se trouvent sur le littoral atlantique, qui ont joué un rôle très important au XVIIe siècle. Il y a Salé, le grand port corsaire par excellence, mais il y a d'autres petits ports satellitaires qui sont Safi, Sainte-Croix, mais on peut citer d'autres ports de moindre envergure, surtout après la reddition des présidés espagnols, je pense notamment à Larache et à la Marmora, mais aussi à Tanger.
Aparte de los que están en la pantalla, están el Larache y el Marmora. ¿Cómo se dice?
La Marmora.
O sea que ella, en la investigación, ha ido encontrando otros puertos satélites dependientes de Salé, que era el epicentro de esa jerarquía portuaria atlántica.
D'accord. Donc pour parler de ce système portuaire marocain, il y a plusieurs facteurs qui ont décidé de l'élaboration de ce système. Il y a d'abord la situation des différents sites. Et là, l'élaboration des différents sites. Donc, on a les facteurs géographiques. Donc, les facteurs géographiques et la situation des différents sites. Nous avons Salé. Salé est situé à seulement 50 lieues du détroit de Gibraltar.
Un momento. Está hablando ahora de la situación geográfica y luego hablará del emplazamiento concreto de cada puerto. En el caso de la situación, habla de Salé, que es la cabecera de este sistema portuario marroquí, que está, como ven, a 50 leguas de Gibraltar, que son unos, multipliquen por 5, pues son 250 kilómetros aproximadamente.
Et au sud du Maroc, il y a Mogador, Essaouira, une ville située sur l'Atlantique, dans le sud marocain.
En el sur de Marruecos está la otra famosa posición.
Donc, pour ce qui est des caractéristiques nautiques, les caractéristiques nautiques et terrestres, eh bien, Salé s'étend sur la rivière gauche de la rivière du Bouregreg, escarpée à 30 mètres au-dessus du niveau de mer. Je vous donne, là, j'ai ici une très belle...
D'accord. Hablando de Salé, que está en la margen derecha del río este famoso, y está en un escarpe, a manera de acrópolis, de 30 metros sobre el nivel del río, con lo cual es una posición militar estratégica interesante.
La côte est défavorable à la navigation, assaillie par d'énormes houles. Il y a des brouillards côtiers, avec la présence d'une forte barre, variable selon l'amplitude de la marée et la force du vent.
Bueno, aquí habla de las condiciones náuticas eran bastante malas, porque la navegación costera en la costa occidental marroquí, y en concreto Salé, hay muchísimo oleaje, y la marea es muy potente, es una marea viva muy potente.
Aussi, nous signalons le caractère dangereux des approches maritimes de Salé, mais et ces inconvénients ont rendu le port inaccessible aux navires de fort tonnage.
Es un puerto inaccesible a los grandes barcos de tonelaje, ¿no?
Alors, pour ce qui est des ressources naturelles, Salé fait partie de ce qu'on appelle la province de Fès, qui est une province assez riche.
Habla de que las dependencias institucionales de la provincia de Fez, donde está el gobernador, para entender.
Et la rivière est un instrument, la rivière qu'on vient d'évoquer, ce qu'on appelle la rivière du Bouregreg, est un instrument primordial pour l'économie portuaire de la ville, au niveau du commerce, de l'agriculture, de la pêche et aussi de la course, et aussi du sel. Il y a aussi on constate aussi une forte collaboration entre la vie maritime de la ville et puis l'économie relative aux fertiles plaines de l'Atlantique, parce que cette région reste une des régions les plus riches du Maroc.
Bueno, que es la región más rica de Marruecos desde el punto de vista agrario y que hay una colaboración entre el hinterland que suministra la actividad económica a la propia ciudad de Salé y habla de la sal, habla de la pesca, habla de la agricultura, de la ganadería.
Avec une importance de l'espace vert et l'extension des espaces cultivés qui assurent bien sûr l'avitaillement permanent de la ville.
Sí, los espacios verdes son los que sirven de abastecimiento a la villa, ¿no? A la ciudad.
Et un autre point qui paraît tout à fait important dans la construction de ce système portuaire à partir de cette ville de Salé, c'est une ville qui est adossée à une région extrêmement boisé, y es lo que appelle la forêt de la Mamora.
Sí, que está en una región con grandes masas boscosas, y cita el bosque de la Mamora.
Mamora, pour construire, bien sûr, éventuellement, les navires corsaires.
La construcción es naval.
Alors, pour ce qui est des ressources humaines.
Recursos humanos.
Alors, on constate la valorisation par les hommes des conditions naturelles favorables, capacité des Salétains, c'est-à-dire les habitants de Salé, les habitantes de Salé, à saisir et à valoriser des atouts bien réels, avec une impulsion étrangère très visible dans l'action corsaire. Salé, c'est
la presencia extranjera que se une a la presencia nativa de los propios saletinos, ¿no? Que en la primera mitad del siglo XVII hay una inmigración forana muy importante.
Donc, Salé reste une terre d'accueil. Pour ce qui est des facteurs, alors les facteurs institutionnels, l'administration, elle est assurée par des étrangers. L'administration est assurée par des étrangers.
La circunstancia es que l'administration, desde el punto de vista del marco institucional, está hecha por los extranjeros, no por los propios gobernadores o altos mandatarios marroquíes, propiamente dicho.
Alors, elle est assurée par des étrangers, notamment des hornacheros, des extremeños.
Habla de los famosos hornacheros del pueblo de Hornacho, que son los moriscos expulsados a principios del siglo XVII y que se establecen precisamente en Salé.
Donc il y a les hornacheros d'abord, et puis ensuite ce qu'on appellerait les morisques, dès leur installation sur la rive gauche du Bourgleg au début du XVIIe siècle, et surtout après l'expulsion définitive en 1609.
Sobre todo a partir de la expulsión definitiva de 1609.
L'attachement à la patrie perdue explique leur visée politique, militaire et économique, qui prirent la forme d'une guerre de course. Ils investissent ainsi un lieu chargé de mémoire, qui est le Ribat al-Fateh.
Esto es muy interesante, como la patria perdida lleva consigo una toma de decisiones de esta élite morisca que lucha en una guerra de corso contra el enemigo, que en este caso es España, ¿no?
Alors, pour ce qui est des facteurs techniques, Salé, bien sûr, reste un port atlantique où on utilise les navires à voile. L'armement nécessite un matériel naval adapté, ayant des dimensions très réduites, étant donné que c'est un petit port qui a très peu de fonds, et donc le tirant d'eau est très faible.
Sí, que es un puerto débil, con poco fondo, y necesita un tipo de nave, de embarcación adaptada al terreno, al emplazamiento, y por eso son naves de pequeñas dimensiones.
C'est des navires qui évoluent à la rame et à la voile.
Sí, al remo y a la vela. Es la gran característica técnica de estos navíos.
Donc, il y a des navires de plusieurs types, mais le navire par excellence reste bien évidemment le Chebec, qui reste le navire saletá, le navire corsaire par excellence.
El navío corsario por excelencia es el Jabeque, que es muy conocido también en las costas del sur de España.
Alors, pour ce qui est des fonctions, plutôt des fonctions. Donc cette ville maritime a développé des fonctions qui lui sont propres. Ça reste un foyer corsaire de grande envergure, mais aussi un centre commercial, le centre commercial le plus important de la façade atlantique du Maroc du XVIIe siècle, et du coup une grande place financière.
En un momento, pasa la página porque estás en factores. Perdona.
Ah, pardon.
Funciones, perdón. Bueno, que habla del gran comercio internacional, el corsarismo y también la actividad financiera vinculada a ambas actividades. Pardon, madame. Ah,
d'accord, donc c'est aussi, on a dit, le commerce, je dirais, intérieur et aussi extérieur, et il assure la relation entre l'arrière-pays et l'avant-pays, l'Interland et
sí,
le Forland.
Que el puerto, como es un modelo clásico, se convierte en un gozne, en una bisagra entre la región tributaria terrestre y la región tributaria marítima, para no emplear las palabras inglesas o francesas.
Alors, pour ce qui est des résultats de ce système portuaire, cette fonction portuaire, la question se pose, cette question portuaire a-t-elle été payante? Alors, à Salé, la course est un puissant facteur économique, est un puissant facteur d'animation. Elle est, comme on vient de dire, la première place du négoce. Elle est la première place pour l'armement corsaire, qui stimule aussi les industries navales. Les effectifs embarqués stimulent d'autres secteurs, comme par exemple la boulangerie. La boulangerie.
À la boulangerie. Bueno, que está hablando de ahora ya de la, del cómo eso lleva consigo una actividad concadenada, ¿no? El corso necesitan barcos, de los barcos necesitan la construcción naval, y de la construcción naval necesitan mano de obra para la marinería y para la propia construcción naval. La boulangerie, no me acuerdo la que era. ¿Qué?
La boulangerie, es la panadería.
La panadería, que no me acuerdo, perdón. un lapsus.
C'est aussi une activité créatrice d'emploi, recrutement qui dépasse les frontières locales. Ça, c'est un point qui me paraît tout à fait important, parce qu'au début, le recrutement s'effectuait au niveau local. Mais avec la rentabilité des activités corsaires, le recrutement n'a pas cessé, le bassin de recrutement n'a pas cessé de s'élargir, de façon à intégrer des éléments venus de l'intérieur du Maroc, pas seulement des villes portuaires, des autres villes portuaires marocaines, mais aussi de l'intérieur, et pas seulement ça, on revoit et on voit des membres de l'équipage qui viennent des autres rives de la Barbarie, des corsaires d'Alger, Tunis ou Tripoli, si. Mais aussi des ce qu'on appelle les renégats, voilà. Donc les renégats aussi, qui viennent essentiellement de l'Europe chrétienne. Essentiellement, on trouve surtout à Salé des Hollandais, dont le plus connu, bien sûr, Luis Alberto Anaya está con nosotros. Il y a Mora Torres, qui est un renégat hollandais originaire de Haarlem. Mais avec lui, il y a tout un groupe solide de renégats qui ont adhéré au jeu général de la course. Il y a aussi des Espagnols.
Sí, simplemente es la, que los equipajes están formados no solo por fuerzas locales, no solo por marinería enrolada en otros puertos del subsistema marroquí. Sí, bueno, sí, las tripulaciones, sí. He hecho una traducción literal. Las tripulaciones están formadas por gente del país, por gente de otros puertos ribereños, por gente de las montañas, del interior de Marruecos, por renegados cristianos, personas que han renegado de la fe cristiana y se enrolan en estas tripulaciones, y también una participación extranjera, como el caso de los holandeses, y cita el trabajo de compañeros de canarios como Alberto Anaya sobre Morato Arraez, que es el arquetipo de un holandés al servicio de los saletinos en esta actividad corsaria.
Et qui fut, bien sûr, chose connue, qui fut élu le premier gouverneur de la République de Salé en 1627.
Sí, en el 1627 llega a ser el primer gobernador de la República Independiente de Salé. Fijaos que a la manera de Génova, a la manera de otras plazas mercantiles de la Europa moderna, Salé se convierte en una especie de República Independiente, ¿no?
Alors, on constate également la formation d'un réseau de sous-systèmes impliqués. Salé possède un immense, comme je dis tout à l'heure, Forland, dont la connexion fut primordiale dans l'essor et le maintien de l'activité corsaire. Par exemple, dans les retours de prise, les refuges, à travers, bien sûr, la commercialisation des produits déprédés, ou volés, entre guillemets, comme des produits de l'intérieur. Il y a deux ports, Salé possède deux connexions avec des ports méditerranéens. Il y a Tétouan. Tu vas en parler cet après-midi, et aussi Alger.
Bueno, que lo que está hablando es que la propia actividad corsaria genera actividades económicas inducidas, como es el comercio a grande distancia, ha puesto el caso de Tetuán, ha puesto el caso de Argelia, donde hay unas relaciones comerciales marítimas a partir de la venta de los buques apresados por los corsarios y de su equipa y de su mercancía a bordo.
Et puis, il y a des ports sur la façade atlantique marocaine, 5 à 7 ports sur l'Atlantique ont su des ports de l'Europe du Nord. Par exemple, il y a eu aussi, donc, bien sûr, des connexions avec les petits ports marocains qui se trouvent sur l'Atlantique, et aussi en Europe du Nord, notamment le port de Vire, où ce même Mora Torres s'est vu obligé plus d'une fois à s'arrêter dans ce port. Quelquefois, il est resté pendant un mois pour, en quelque sorte, recruter des hommes sur place. Le port de Vire, aux Pays-Bas.
O sea que incluso utilizan los grandes corsarios en estas grandes navegaciones, porque hay un mapa en el libro de Leila en que se habla de las grandes incursiones corsarias que llegan hasta Islandia, ¿no? Pues en esas navegaciones hace falta reclutar incluso gente de otros puertos europeos. Y pone el caso de en un puerto de los Países Bajos donde estuvo Morato Arraez un mes, ¿no?
Oui, un mes, le port de Vire.
Un mes para reclutar tripulación y preparar bien el negocio, el armamento del buque.
Alors, parmi ces ports, là par exemple, les noms, je ne sais pas, avec le PowerPoint, je ne vois plus les noms parce que peut-être ils sont écrits en gris, mais là je vais essayer de vous aider un peu. Alors, parmi ces ports, on retrouve un petit port qui s'appelle Tahterte, dans le nord du Maroc, pas loin de Tanger. Il y a aussi le port d'Assila. Il y a l'Arrache, qui a été repris en 1689, et qui, du coup, a adhéré à l'activité corsaire vers l'extrême fin du XVIIe siècle.
Un momento. Va describiendo los puertos de norte a sur. Empieza por Tánger, que era una posesión que estuvo en manos de los ingleses, como ustedes saben. Luego viene Arsila, ¿no? Me dijiste. ¿No?
Arsila está aquí, sí. L'Arrache. Hay la Mamora, que está a la desembocadura de Cebu. Y a Salé, que nos interesa, Rabat actual. Hay Fedala, hay Casablanca, hay El Jadida, un poquito más tarde, a final del siglo XVIII. Tenemos a Safi, el puerto de Safi, que está aquí. Y luego tenemos al puerto de Santa Cruz.
Una... ¿Eh? No, que quería hacer una observación. Fijaos que muchos están muy bien situados en la desembocadura de los ríos, que es la forma más cómoda y más barata de acceder al interior, a la región tributaria.
Entonces, ces ports, comme l'Arrache, la Mamora, Tanger, après leur édition, deviennent des ports où on armait des navires, et aussi, c'est des ports qui servent aussi à s'approvisionner, à l'approvisionnement des corsaires de Salé. La course contribue ainsi au développement de l'activité, aussi au développement de l'activité commerciale pour l'écoulement des prises. La complicité, bien sûr, des marchands européens est présente. Pour aussi l'achat des produits provenant de l'Europe et aussi engendre l'emploi tant à la mer que dans les autres services.
Bueno, que con motivo de la actividad corsaria hay una actividad comercial con productos europeos. La segunda parte no la entendí.
On a dit que la course contribue au développement général de l'activité commerciale pour l'écoulement des prises, les prises opérées par les corsaires, et aussi grâce à la complicité des marchands chrétiens et juifs sur place.
Et gracias a la complicidad de comerciantes cristianos y judíos que estaban en la propia ciudad de Salé, se crea toda esta red internacional de distribución de las mercancías capturadas en los buques apresados.
Et aussi pour l'achat du matériel d'Europe, notamment le matériel naval et le matériel de guerre.
Sí, la necesidad de importar efectos navales y material de guerra de Europa, que se favorece de estos circuitos comerciales complejos al abrigo de la actividad corsaria.
Et donc, ceci engendre l'emploi,
es una fuente de empleo para el mar en todas sus variedades, desde el comercio, la navegación, etc.
Voilà, les autres services. Pour ce qui est de la place du butin corsaire, le bottin, donc les navires de prise ayant une valeur marchande variable. Il y a d'abord la vente aux enchères, quand le navire est reconnu incapable de se reconvertir en navire de course.
Sí, bueno, que ahora empieza a describir cómo se saca beneficio de esa presa corsaria. Primero, si el barco no tiene capacidad de convertirse a su vez en un buque corsario, ¿qué
pasa? Vendido,
se vende directamente.
Ou si s'il est reconnu apte à la course, eh bien il est reconverti directement en navire de course.
Directamente se convierte en un buque de corso en caso de que sea factible.
Alors pour ce qui est du butin corsaire, on retrouve aussi de l'argent monnayé, de l'argent sonnant et
sí, cuando se encuentran los caudales de oro y de plata, las monedas.
Algunas veces, les marchandises écoulées dans le pays ou réexpédier dans d'autres destinations, à d'autres destinations, des ports méditerranéens, comme pourrait être Livourne ou Marseille, mais aussi des ports atlantiques comme Cadix.
Sí, que se reexporta los metales preciosos al Mediterráneo y al Atlántico, y cita el Marsella, citaste, ¿no?
Marsella
y Cádiz.
Voilà. Merci. Sinon, la marchandise qui a le plus de valeur, bien sûr, reste bien évidemment ce qu'on appelle, ce que Jean Mathieu appelle l'homme marchandise, les captifs. Les captifs restent bien évidemment, représentent une valeur considérable, tant comme force de travail brut, mais aussi comme monnaie d'échange.
Sí, que la presa más importante eran los seres humanos. Se empleaban para la esclavitud o para el intercambio, el canje.
Alors, donc la course fut payante pour l'ensemble de la population de la région. La course fut payante pour l'ensemble de la population au XVIIe siècle, jusqu'à l'arrivée, bien sûr, des sultans alawites.
Hasta la llegada de los sultanes alawitas, el corso fue el motor del desarrollo económico y poblacional de esta región atlántica, de Salé y su sistema portuario.
Alors, pour revenir aux résultats, je vais m'arrêter un instant sur l'organisation urbaine et la morphologie urbano-portuaire de la ville. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la course a donné naissance à une agglomération urbaine atlantique assez importante et son influence est manifeste quant au tissu urbain.
Sí, crea un tejido urbano muy complejo, una verdadera ciudad portuaria. No es un puerto, es una ciudad portuaria comme il faut. Y hablo en francés.
Donc Salé s'étend sur 91 hectares,
recouvrant ainsi une faible partie de l'emplacement original de ce qu'on appelait le Ribat al-Fath, la ville almohade, qui a, vous savez,
80
que,
hectares, 80.
Non, 91.
91. 91 hectáreas en sobre el asentamiento almohade, es decir, medieval, ahí se asienta la nueva ciudad portuaria de Salé.
Alors, ces limites sont définies par des fortifications, comme on vient de voir sur la gravure, sur la photo.
Que estamos hablando de una morfología urbana de una ciudad plenamente fortificada, como veremos a continuación en una fotografía.
C'est la photographie qu'on a vue tout à
l'heure. Belle, es muy bonita, es una preciosidad de foto.
Esta es una parte de la ciudad de Rabat. Es lo que se llama la citadel de Zudaya. El castillo es una fortaleza muy importante.
Parte de la ciudad moderna de Rabat, es el corazón de Rabat.
Eso.
Es una belleza, les recomiendo que lo vayan a ver.
Tomar un té ahí. Alors, j'insiste aussi sur un autre point qui paraît important, c'est la monumentalité des édifices, des mosquées, les galeries, les bains, etc.
La monumentalidad de los edificios, las mezquitas, los palacios, las casas de los comerciantes.
Alors, Salé s'agrandit, se fortifie, comme tu viens de dire, et se modifie, et présente un plan de régularité inconnu dans les anciennes villes marocaines.
Eso es un aspecto interesante de la tesis de Leila, de su trabajo de investigación, que es que Salé, con la expansión del negocio corsario, tiene que expandirse desde el punto de vista poblacional, tiene que salirse de sus murallas, y entonces crea un modelo urbano, una retícula urbana, que es completamente ajena a toda la tradición urbanística del norte de África. Y sigue continuando.
Quatre rues principales nord-est et deux voies transversales est-ouest sont, dont plusieurs au tracé très rectiligne, délimitent les différents quartiers de la ville.
Bueno, que ha hecho en plan campamento romano, cuatro calles principales con tres transversales de una forma rectilínea.
D'accord. Resserrée entre la muraille andalouse, qu'on ne voit pas ici, mais on peut la voir sur une autre gravure que j'ai ici de la ville, ça c'est l'Arrache. Voilà Salé. Bon, ici il y a une confusion. Normalement, Salé se situe sur la rivière gauche du Bouregreg, normalement, mais les contemporains ont toujours confondu l'emplacement des deux villes. Mais la muraille andalouse, c'est celle-ci. Et la muraille almohade, c'est celle-là. Donc c'est la muraille que les Andalous ont construite une fois installée dans la ville de Salé. Alors, autre point important, et qui a une conséquence à la présence morisque dans la ville, c'est l'influence andalouse reste très nette dans le décor des portes et aussi des maisons, et qui a dû s'exercer également à l'intérieur. On en a parlé hier,
sí,
à l'intérieur
sí.
Que
la influencia andalusa es espectacular, predominante, tanto en la decoración de las puertas, del exterior, de los edificios de madera, como en el interior, en los patios trabajados en madera.
Alors, pour ce qui est du chantier naval, le chantier naval, il était logé. J'ai ici une gravure. Attendez un instant. Voilà. Alors, le chantier naval, eh bien, normalement, il y a ici une tour qu'on appelle la Tour Hassan, qui a été construite à l'époque almohade, au XIIe siècle.
Elle est cerca d'une torre almohade d'une immense altura, qui todavía está en el perfil urbano de hoy.
Et donc, le chantier
naval. Et ahí está la posición del varadero y del lugar de reparaciones navales.
Voilà, donc
l'astillero
se trouve juste en bas, juste au pied de la tour, celle non loin du port qui est située juste là.
Y el puerto es esa pequeña ensenada que está a la derecha.
Alors on procéda le long de la ville, au bord du fleuve, à quelques installations sommaires pour faciliter l'embarquement et le débarquement.
A ambos lados del río hay pequeñas instalaciones para facilitar las operaciones de armamento y de carga y descarga, etc.
Alors, pour revenir aux résultats institutionnels qu'on vient de voir, donc pour ce qui est de la modernisation institutionnelle, eh bien, Salé se réjouit d'une autonomie. Elle s'érige en république entre 1627 et 1640.
Sí, entre 1627 y 40 llega a ser una república independiente totalmente separada del poder del interior, del poder central marroquí.
Durante 13 años. Alors, le pouvoir exécutif de la nouvelle, cette nouvelle formation politique, si j'ose dire, ce pouvoir exécutif appartient au gouverneur, élu annuellement et assisté par un diwan ou divan composé de 16 personnes.
O sea, un gobernador que tiene un grupo un consejo de la máxima autoridad formado por 6 personas.
16 personas.
16 personas.
Sí. 16. La justicia es rendida por 2 cadets o 2 juges.
La justicia por 2 jueces.
Y las élites controlan las actividades portuarias. Ces élites son esencialmente de Hornacheros.
Sí, sí. Que hay un cargo para controlar las actividades portuarias.
Et avec le passage de la ville sous l'autorité des sultans alaouites en 1666, le nouveau sultan s'est dit...
Con la llegada del nuevo sultán,
Saleh está administrada por 4 gobernadores y un gobernador especializado en el puerto.
Ya traducido. Voilà. Voilà.
Alors, pour ce qui est des résultats, je dirais, sociaux et culturels, donc, comme on vient de dire, donc Saleh est le siège d'une agglomération humaine non négligeable. La composition de sa structure sociale, il y a la société salétine qui se caractérise par son cosmopolitisme, on l'a dit tout à l'heure, le fond est morisque, et Hornachero morisque.
Sí, habla de la aglomeración urbana que lleva como resultado esta actividad corsaria y comercial y financiera, en la cual la estructura social está... caractérisée par la grande présence de los hornacheros, de los moriscos expulsados.
Alors, donc, il y a les hornacheros et les morisques qui forment le fond de la population de Salé ou ce qu'on appelle aujourd'hui Rabat. Ils furent à l'origine, bien sûr, les armateurs, mais il y a aussi les morts, les noirs, les renégats et aussi les juifs qui étaient très présents.
Sí, habla de los moros, los restantes moros, los renegados, los esclavos negros y los judíos.
Il y a aussi, on note aussi la présence d'autres groupes sociaux, comme c'est le cas des étrangers, notamment qui se regroupent en colonies marchandes.
Mais una colonia mercantil extranjera.
Voilà. Et qui peuvent exercer des fonctions, leurs fonctions, comme par exemple les consuls aussi. Il y avait des représentations.
Hay un consul de esas naciones extranjeras.
Notamment le consul de la nation française à Salé, et puis le consul hollandais.
Consul français et le consul hollandais.
Il y a aussi, on note aussi la présence d'une communauté religieuse importante, notamment la communauté chrétienne, surtout le corps religieux qui administrait en quelque sorte les affaires religieuses, surtout ceux des captifs et aussi des communautés étrangères et chrétiennes sur place.
Que hay una jerarquía eclesiástica, a sacar una comunidad cristiana, que atiende tanto a los residentes extranjeros como a los propios cristianos cautivos.
C'est pour donner une idée du nombre des captifs. Entre 1626 et 1636, il me semble, il y eut, disent les sources, jusqu'à 6000 captifs à Salé. Ce qui fait, en 10 ans, on a eu 6000 captifs, ce qui fait à peu près, on a 600 captifs par an.
6000 captifs, si me recuerdo. 6000 captifs en 10 ans. Regarde la importancia poblacional.
Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le vocabulaire lui-même, le vocabulaire maritime, est profondément imprégné par la langue espagnole, parce que c'est la langue de ces nouveaux immigrés, c'est parce qu'on a maintenu l'usage du castillan, c'est aussi, ils portent des noms à connotation espagnole, des Pelafres, des Branco, des Puerto, des Vargas, donc jusqu'à nos jours, il y a des familles de Rabat qui portent des noms d'origine castillane.
Es que, primero, que con la afluencia masiva y la importancia social, económica y política de este grupo de moriscos expulsados, afectó al lenguaje marinero, el lenguaje de la navegación, que todavía hoy se mantienen algunas palabras, e incluso familias todavía del actual Rabat tienen apellidos de origen castellano, del reino de Castilla, ¿no?
Et même la correspondance officielle avec les pays européens s'entretenait en langue castillane jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle.
Que hasta mediados del siglo XIX,
18,
la lengua oficial de diplomática era el español.
Voilà. Donc nous sommes, pour conclure, nous sommes en présence d'un système portuaire marocain dont la fonction principale au XVIIe siècle, au début XVIIIe siècle, est bien sûr, comme on vient de voir, c'est la guerre de course, qui s'opère essentiellement dans l'Atlantique. Je n'ai pas eu le temps de m'arrêter longtemps sur les différents types de courses, petites, moyennes et grandes courses, qui s'opèrent essentiellement sur ce que vous avez appelé tout à l'heure, ce que Brodel appelle la Méditerranée Atlantique, mais aussi dont les Canaries étaient la grande victime, je dirais, dans le cadre de cette grande guerre de course. Mais il y a aussi ce qu'on appelle la course océane, c'est-à-dire la course qui a mené les salétins vraiment très loin sur les bandes de Terre-Neuve, mais aussi en Islande, dans les différents...
El corsarismo saletino llega muy lejos en el Atlántico. Es un gran, no solo el corso clásico en torno al Golfo de Cádiz y Canarias y el área atlántica más próxima, sino que se aventuran al norte de Europa.
Et donc c'est une course qui est adossée aussi à un commerce très lucratif, parce que les deux vont ensemble. Et à travers ce modèle, le modèle salétin, je n'ai pas eu le temps pour m'arrêter sur Mogador, parce qu'il y a d'autres choses à dire sur Mogador, un port de grande envergure internationale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, qui est un port royal,
sí,
je tiens à le dire.
Claro, ella ha hecho hincapié en Salé, porque Mogador es otro caso distinto, que tiene una mayor presencia en la segunda mitad del siglo XVIII, como un puerto real, es decir, ya no es la misma estructura institucional.
Voilà. Et donc nous sommes en présence d'une économie originale, d'une société particulière, une réalité institutionnelle distincte et aussi de traits culturels spécifiques d'une ville atlantique marocaine.
Es que el francés es tan bonito que seguro que lo habéis entendido todo, porque es que da gusto oír hablar francés a Leila. Se crea una economía particular, una villa portuaria distinta, una sociedad diferente, una forma de vivir distinta con respecto al entorno marroquí. Es un modelo de análisis que ella ha podido llegar hasta sus últimas consecuencias, incluso con trazos culturales, ¿no?